Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir à tous, merci de nous accueillir à l'écoute de RFI. Les pays producteurs de pétrole, l'OPEP, réunis à Vienne depuis hier, ont décidé d'une hausse de la production. Cela devrait avoir pour effet de calmer la hausse des prix observée depuis 2 ans. La fin du pétrole est programmée dans le cadre de la transition énergétique. Une transition lente à se mettre en place tant les réserves restent importantes et l'OPEP ralentit encore davantage le processus en limitant la production. Mais la nouvelle donne géopolitique, les sanctions contre l'Iran par exemple, la crise au Venezuela ou la production américaine de gaz de schiste change le contexte et relance le débat sur la capacité des énergies renouvelables à s'imposer et à remplacer les énergies carbonées. Le pétrole moins cher peut-il menacer la transition énergétique? On va en parler avec deux invités ce soir que je vous présente tout de suite. Jean-Pierre Favennec est spécialiste de l'énergie, en particulier du pétrole, professeur à l'école du pétrole et des moteurs, où il a dirigé le centre économie et gestion. Et vous avez écrit avec Yves Mathieu un atlas mondial des énergies. C'est chez Armand Collin. Bonsoir à vous, Jean-Pierre Favennec.
Bonsoir.
Et puis Yves Marignac est porte-parole de l'association Negawatt, directeur de Wise Paris. Vous nous expliquerez ce que c'est. Vous avez écrit Manifeste Negawatt en route pour la transition énergétique avec Thierry Salomon, Marc Jedliska. Bonsoir à vous, Yves Marignac.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Alors, les ministres de l'OPEP qui généralement contrôlent de très près les quantités de pétrole mises sur le marché ont convenu aujourd'hui d'une hausse de la production. Expliquez-nous pourquoi, Jean-Pierre Favennec.
Oui, alors il faut peut-être prendre un tout petit moment pour... Je rappelle en deux mots qu'il y a 4 ans exactement, le prix du pétrole, c'était plus de $100 le baril. Du fait d'une surproduction dont on s'est rendu compte à ce moment-là, en particulier due à la production de pétrole de schiste aux États-Unis, le prix s'est effondré. Et dans un premier temps, l'OPEP a refusé de réduire sa production, ce qu'elle fait d'habitude pour rétablir les prix. Donc les prix sont restés à des niveaux très bas en 2015 et 2016. Cependant, les pays de l'OPEP se sont rendus compte que c'était bien d'avoir des prix bas qui permettaient de concurrencer les schistes américains, mais que ça créait des déficits extrêmement importants. Donc, à la fin de 2016, il y a maintenant 1 an et demi, il y a eu des accords assez importants, d'une part au sein de l'OPEP, ensuite avec la Russie, ce qui est très, très peu fréquent, pour réduire la production dans des proportions limitées, mais quand même de l'ordre de 1,5 million à 2 millions de barils par jour, et ça a permis au prix du pétrole de remonter. Alors, ce qui a provoqué les difficultés peut-être, ou l'accord d'aujourd'hui, c'est la chose suivante, c'est que le prix du pétrole est remonté plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement, mais il y a quelques semaines, Donald Trump a annoncé qu'il ne se retirerait de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce qui veut dire aussi sans doute à terme rétablissement des sanctions contre l'Iran, ce qui veut dire aussi sans doute à terme baisse de la production iranienne. Et on se retrouve donc actuellement avec, c'est ça qui a donné un peu le signal, donc probable diminution, peut-être diminution de la production iranienne dans quelques semaines, quelques mois. Et en même temps, on sait qu'au Venezuela, du fait de la situation économique, la production est en train de chuter de manière catastrophique. On sait également que dans d'autres pays comme la Libye, même le Nigeria, l'Angola, la production a tendance à diminuer. Donc on est tout simplement, on était sur une situation où moins de pétrole, ou du moins de pétrole attendu, donc plus de le prix du pétrole est monté jusqu'à $80. Mais là, je termine là-dessus, le président américain a commencé à dire, après avoir donc se retiré de l'accord et donc avoir provoqué un petit peu la hausse des prix, dit, oh là là, mais c'est trop élevé. Et $3, lorsque ça se traduit par $3 le gallon d'essence aux États-Unis, c'est beaucoup trop. Donc, il faut faire quelque chose. Et donc, on est arrivé à la situation d'aujourd'hui où l'Arabie Saoudite, qui a comme des rapports étroits avec la Maison-Blanche et qui tient à garder ses rapports, a œuvré pour une augmentation de la production avec, d'ailleurs, en accord avec la Russie, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et donc, il y avait en face un groupe de pays, Venezuela, Iran, Irak, qui prônait, au contraire, un maintien de la production à un niveau relativement bas. On est arrivé aujourd'hui à un accord. Je pense que le prix du pétrole, on va diminuer un peu, va revenir sans doute vers 60-70, peut-être un peu trop, peut-être pas assez. On va en discuter, je pense, maintenant.
Donc, il va y avoir une baisse du prix du pétrole.
Il devrait y avoir une petite baisse du prix du pétrole.
Et pas simplement un réajustement, on va dire.
Ah, ça dépend ce qu'on appelle baisse et réajustement. Disons que le prix du pétrole était à $80 il y a quelques semaines, il est revenu à 75. Il est encore, je crois, à 75. On peut estimer que c'est peut-être encore un peu beaucoup pour les économies. On parlait encore récemment, les jours derniers, en France en particulier, mais dans les autres pays européens, d'une baisse de la croissance économique. Et l'un des facteurs qui conduira à cette baisse, c'est évidemment l'augmentation du prix du pétrole. Le prix de l'essence est remonté quand même à des niveaux relativement élevés, il faut le reconnaître.
Yves Marignac, vous suivez de près, vous, ces réunions de l'OPEP?
Alors non, à vrai dire, parce que l'association Négawatt concentre sa réflexion sur la transition énergétique en France. Mmh. On commence à travailler à l'échelle européenne, mais on est loin d'avoir la capacité de suivre ces questions au niveau international. On les suit sous l'angle de l'impact qu'elles peuvent avoir effectivement sur les dynamiques de transition énergétique en Europe, en France, à travers les signaux prix. Et pour nous, il est évident que un pétrole plus bas ralentit l'intérêt de la transition énergétique, ralentit l'incitation économique à faire, et donc est plutôt une mauvaise nouvelle, hein, sachant que par ailleurs, il y a évidemment vu des acteurs économiques, que ce soit les entreprises par rapport à la question de la croissance que vous évoquiez, ou vu des ménages, il y a toujours cette inquiétude sur le niveau de prix de l'énergie et sur l'impact sur la facture et sur la consommation. Nous, notre réponse à ça, c'est que la maîtrise de la consommation d'énergie par des actions d'intelligence sur les usages, de sobriété et d'efficacité énergétique est la meilleure réponse pour réduire le nombre d'unités d'énergie à consommer pour les mêmes services et donc amortir des effets à la hausse du prix de l'énergie. Le problème est que tant que les prix sont bas, l'incitation, notamment à l'efficacité énergétique, est plus faible parce que les investissements dans cette efficacité sont moins rentables. Donc on est en période où, lorsque la tendance est au prix bas, dans un cercle vicieux qui, effectivement, va contre la transition énergétique, qui, par ailleurs, vis-à-vis de notre dépendance au pétrole et vis-à-vis des conséquences environnementales, notamment climatiques, de cette consommation de pétrole, cette transition énergétique, elle est évidemment tout à fait nécessaire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Favennec, la transition énergétique est dépendante du prix du pétrole ?
Écoutez, je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste en disant cela, mais je pense qu'il y a maintenant une certaine déconnexion entre le prix du pétrole et la transition énergétique. Je pense que la transition énergétique est une nécessité. Elle se fera, en partie en France, bon, on voit toutes les mesures qui sont prises. Et je pense qu'actuellement, on voit se développer, le président Macron était en train de travailler pour mettre en place les fameux parcs éoliens au large de la Bretagne. Je suis beaucoup en Afrique et on voit beaucoup de parcs solaires. Je vois un pays comme le Sénégal qui, il y a quelques années, n'avait absolument rien, pas de solaire à part quelques panneaux, a mis en place 5 ou 6 centrales solaires. C'est pas énorme, mais qui représente quand même 15% de la capacité de production. Et on voit un peu partout que ça se développe. Donc, je suis pas tellement pessimiste. Et puis, on dit, bien sûr, maintenant, que le prix de revient de l'électricité d'origine solaire est très largement compétitif avec les autres sources. Je laisserai monsieur Marcillac en parler d'ailleurs tout à l'heure. Donc moi je pense qu'il y a une espèce de déconnexion parce qu'on est tous conscients que les experts ont dit qu'il fallait laisser dans le sol une bonne partie d'énergie fossile si on voulait éviter le changement climatique, et on voit que le changement climatique, quand même, on le sent, on le voit se manifester. Moi je pense que, évidemment, ayant beaucoup travaillé dans le pétrole, je pense que le pétrole reste une énergie utile, reste une énergie qui va être utilisée. Les ressources, vous l'avez signalé tout à l'heure, sont importantes. Il y a des pays d'ailleurs, mais je vais terminer aussi là-dessus. Vous avez un pays comme la Chine, par exemple, qui a énormément développé sa consommation de pétrole. L'Inde est en train de faire la même chose. Mais ce sont en même temps des pays où vous avez un développement de la voiture électrique. Pour moi, la voiture électrique pose énormément de problèmes. Mais je tiens quand même simplement à le signaler. Je crois que les deux choses vont aller de pair. Une continuation de la consommation d'énergie fossile. Alors, sans doute, faut-il y faire le plus attention possible, pour les raisons que M. Martignac a très bien évoquées. Mais je pense que le développement des énergies renouvelables, bien sûr, va se faire.
Alors, parlons finance. Yves Marignac, quel impact finalement, mais de manière très concrète, le prix du pétrole a-t-il sur les investissements eux-mêmes dans les énergies renouvelables ?
Alors, cet impact n'est pas énorme tant qu'on parle effectivement des énergies renouvelables les plus en vue, c'est-à-dire les énergies renouvelables électriques. Et je suis complètement d'accord avec M. Favennec sur le fait qu'il y a une forme de déconnexion aujourd'hui. La transition vers le 100% renouvelable dans l'électricité me semble en marche de manière assez inéluctable, parce que les gains de compétitivité des énergies renouvelables, photovoltaïques, l'éolien, en font aujourd'hui des investissements tout à fait rentables dans de plus en plus de pays, de plus en plus de conditions géographiques, et en particulier, on voit effectivement en Afrique que l'électrification absolument nécessaire de ces pays, hein, pour que les populations accèdent progressivement à un mode de vie décent puis moderne. Cette électrification, elle passe aujourd'hui plus facilement par les énergies renouvelables décentralisées. Et donc, dans l'électricité, je pense que les choses se font assez naturellement aujourd'hui. Ça fait d'ailleurs plusieurs années que la majorité des nouvelles capacités électriques installées dans le monde est de la capacité renouvelable devant les énergies fossiles, hein, devant les centrales gaz notamment, et bien devant le nucléaire. Là où le problème se pose de la manière la plus fondamentale, c'est dans les transports. Parce que si nos économies sont si dépendantes au pétrole, hein, c'est quand même à travers la mobilité et un secteur des transports qui, grosso modo, est dépendant mondialement à 90% du pétrole. Et là, les alternatives et les possibilités de développer les énergies renouvelables sont plus contraintes. D'abord par des contraintes d'usage des sols. Hein. On peut difficilement mobiliser des territoires agricoles pour des productions agricoles dédiées. Il y a tout le débat sur les biocarburants et les filières biocarburants qu'à Négawatt, on aime d'une manière générale pas beaucoup parce que leur soutenabilité est vraiment questionnable. Donc il faut aller vers d'autres formes de carburant. La vision qu'on a à long terme, c'est d'utiliser du gaz d'origine renouvelable dans les transports, parce que on est d'accord sur le fait que la voiture électrique est une solution dans certaines circonstances, notamment en milieu urbain, en milieu dense, mais probablement pas pour l'interurbain et pour le transport de marchandises. Donc le remplacement du pétrole dans notre vision ne peut pas venir, en tout cas pas de manière massive, des biocarburants. Il faudra qu'ils viennent de gaz issus de biomasse ou issus d'électricité renouvelable. Et là, les prix de cette fourniture-là aujourd'hui sont difficilement compétitifs avec le pétrole. Et donc c'est là qu'on a besoin soit que mécaniquement, par le jeu de l'offre et de la demande, les prix du pétrole remontent, mais on le disait, on est mal parti pour ça, soit que des signaux prix viennent s'ajouter au prix naturel de la ressource. Et là, on parle de la taxe carbone, hein, pour effectivement faire en sorte que l'incitation au renouvelable, là où on dépend vraiment du pétrole, vienne. Pour le moment, on en est loin.
Je reste sur les investissements parce que c'est très important. Le renouvelable, on est d'accord, c'est l'avenir. Les investisseurs le savent, Jean-Pierre Favennec.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est l'avenir. Bon, il faut garder à l'esprit que pour le moment, on est encore à 85% d'énergie fossile dans le monde. C'est-à-dire que charbon, pétrole et gaz représentent 85%. On parle beaucoup d'investissement dans les énergies renouvelables, mais si on regarde les grandes compagnies énergétiques, souvent, une grosse partie de leurs investissements reste, bien entendu, encore dans le fossile. On peut le déplorer, mais...
On est au début de la bascule.
Au début. Alors, je dirais simplement que, et là, je serais peut-être un tout petit peu moins optimiste, bon, peut-être que mon origine aussi l'explique, mais je pense que s'il faut effectivement faire en sorte de réduire les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre, aller vers donc une diminution du réchauffement climatique, vous parliez tout à l'heure, par exemple, de l'électricité. Bon, c'est sûr qu'on va faire beaucoup d'électricité, on en fait déjà beaucoup à partir de solaire et d'éolien. Le problème, c'est que, bon, ça, on dit le coût n'est pas très cher, mais aussi le problème de l'intermittence, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité si on a des éoliennes, et quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas. Donc il y a le problème du stockage qui est tout à fait important, et donc je crois quand même, alors il y avait une expression qui a été utilisée, qui n'a pas été utilisée tellement longtemps, surtout en Europe, parce que la Commission européenne est assez réticente par rapport à toutes les formes d'énergie fossile, y compris le gaz, qui à mon avis est peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas, l'Agence internationale de l'énergie qui est basée à Paris parlait du gaz comme un pont vers le futur. C'est vrai que le gaz émet beaucoup moins de CO2 que les autres formes d'énergie. Et je pense que dans certains cas, si je reprends l'Afrique par exemple, clairement il y a des développements, et surtout d'ailleurs dans le solaire, mais il y a beaucoup de gaz sur les côtes africaines, les consommations sont assez limitées par rapport à ce qu'on a ailleurs, donc développer le gaz pour la production d'électricité peut être une bonne chose.
Mais l'accord de Paris quand même, sur le climat, signe la fin des énergies carbonées quand même. Est-ce que les pays producteurs s'y préparent ou pas ?
Là, c'est une vaste question parce que je veux pas être trop brutal, mais c'est extrêmement difficile de sortir. Bah, regardez l'exemple du Venezuela. Ouais. 110 ans de production pétrolière, où en est le Venezuela? Et je vais apporter aucun jugement ni sur les gouvernements qui ont précédé Monsieur Chavez en 99, ni sur Monsieur Chavez, ni sur Monsieur Maduro. Je pense que Monsieur Maduro peut-être aurait pu gérer un peu différemment, mais clairement, on est un pays en faillite alors qu'il a produit des milliards de tonnes de pétrole. Ouais. Donc la diversification, ce qu'essaie de faire l'Arabie Saoudite également. L'Arabie Saoudite a pour objectif de sortir un peu du pétrole en développant d'autres activités d'ici 2030. C'est extrêmement difficile. Les seuls pays qui y arrivent un petit peu, à mon avis, sont des petits pays, en particulier pays comme Dubaï, pays comme le Koweït jusqu'à un certain point, parce que là, la situation est différente et on peut sans doute sortir progressivement. Mais c'est compliqué.
Je voudrais l'avis d'Yves Marignac sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que c'est une préoccupation pour les producteurs de pétrole de changer de paramètres?
Ça devrait l'être, c'est-à-dire que les signaux s'accumulent sur effectivement une réduction progressive et il faut qu'elle soit la plus rapide possible, elle ne l'est pas assez pour le moment, de l'utilisation des énergies fossiles et en particulier du pétrole par l'économie mondiale. Donc ces pays, d'une manière ou d'une autre, doivent se préparer à sortir de cette punition qui est d'une certaine manière la rente pétrolière. Mais c'est avant tout une question de responsabilité internationale. Mais de la même manière que la transition énergétique dans notre pays ou à l'échelle européenne est une question de régulation par la puissance publique, et pour une raison assez simple, c'est que quand on parle de transition énergétique, alors on a évoqué les énergies renouvelables, il faut surtout pas oublier, on insiste nous beaucoup là-dessus, toute la dimension maîtrise de la consommation d'énergie, oui, la rénovation des bâtiments par exemple, etc.
Mais vous préconisez.
La transition énergétique, c'est un changement de système de production et de consommation, et on voit assez facilement, et les politiques s'emparent assez facilement, des secteurs à développer. Les renouvelables, la nouvelle mobilité, le véhicule électrique, etc. Ça, c'est, on a relativement facilement des dynamiques pour ces secteurs-là. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est que la transition, c'est aussi de renoncer à certains secteurs, de renoncer à certaines activités. Et là, les politiques les politiques publiques sont beaucoup plus réticentes à attaquer ces questions. Le transport en fait évidemment partie. Le transport aérien, par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'alternative à disposition pour remplacer le kérosène. Et on a un transport aérien qui augmente, je sais plus, c'est plusieurs pourcents de croissance par 5, an. Enfin, c'est phénoménal, hein. 5%, j'ai en tête. Hein, mais oui. Et ne serait-ce que cette augmentation-là, même si on devenait absolument raisonnable sur tout le reste, nous condamne à ne pas réussir les objectifs de l'accord de Paris. Donc, on voit qu'il y a des renoncements à construire politiquement et économiquement, que ça appelle une volonté politique forte et une régulation économique importante. Aujourd'hui, on n'en voit pas ces signaux aux pays pétroliers, ou en tout cas pas de manière suffisante.
Sauf qu'on avait l'impression que le pétrole allait disparaître totalement, et le réchauffement climatique exige cet abandon du pétrole. Est-ce que c'est une perspective qui reste plausible? Il nous reste une petite minute, Jean-Pierre Fallon.
Oh, très court. Quand je l'ai dit tout à l'heure, on a 85% d'énergie fossile, donc c'est difficile de passer rapidement à très peu de choses.
Quelles sont les échéances?
Je dirais qu'on passe, si vous voulez, les scénarios qui sont sortis, qui sont pas les scénarios notamment de Négawatt, mais de l'Agence internationale de l'énergie, c'est que la consommation de pétrole commence à baisser vers 2030-2040, hein, guerre avant. Donc, ça veut dire qu'on continue à envoyer pas mal de CO2 dans l'atmosphère. Alors après, il y a effectivement le problème de la capture, du stockage du CO2. Il faut continuer à travailler là-dessus. Les progrès sont lents. Donc, je crois que malheureusement, nous sommes face à des problèmes qui sont complexes.
Mais la question, c'est aussi la capacité de l'économie mondiale et les aspects géopolitiques par rapport à cette croissance. Ouais. C'est-à-dire que les tensions associées aux impacts de cette consommation deviennent telles que il n'est pas évident que ça puisse continuer comme les prévisions le disent.
Allez, on n'en dira pas plus ce soir. Merci à tous les deux. Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie et en particulier du pétrole, professeur à l'école du pétrole et des moteurs, et puis Yves Marignac, porte-parole de l'association Négawatt. Merci également à Florence Pons qui a préparé cette émission, Gérard Perrault à la documentation, Fabrice Violet qui réalise cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À lundi, un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes. Bonsoir à tous.